Eh bien, pour son émission mensuelle Radio FM Plus 91 MHz à Montpellier 103.1 à Nîmes, vous propose de rencontrer Monsieur Jean-Marie Boisson. Jean-Marie Boisson, Monsieur Jean-Marie Boisson, vous êtes déjà venu nous voir, je crois, sur cette...
Oh, il y a un certain temps,
il y a,
oui.
Il y a quelques temps, hein. Mais nos auditeurs ne vous ont pas oublié. Alors, on va rappeler un peu votre parcours rapidement. Donc, vous êtes professeur à l'Université Montpellier 3 de sciences économiques, si je me
Montpellier.
Trompe pas. Montpellier, pardon. Oh là là là, l'erreur, mon Dieu,
donc,
si je confonds l'un et trois.
Bon,
donc voilà, Montpellier 1. Vous êtes surtout, c'est vous qui tenez ce qu'on appelle la chaire Jean Monnet. C'est quoi une chaire Jean Monnet?
C'est un mécanisme qui a été mis en place par la Commission, qui l'a financé pour partie pour quelques années, et pour pousser à développer des cours et des séminaires sur les questions européennes dans les universités, non seulement en France, non seulement en Europe, mais également dans le monde entier. Il y a des chaires Jean Monnet aux États-Unis, il y a des chaires Jean Monnet en Australie, par exemple. Hein. Les financements sont assez ridicules, ils font démarrer les choses, et puis ensuite, ça marche bien ou ça marche moins bien. Il y a des endroits où ça marche très très bien et d'autres endroits où ça marche un peu moins bien. À Montpellier, ça n'a pas si bien marché que ça. Il y a des chaires en droit, des chaires en économie, des chaires en sociologie, en histoire.
Et alors vous êtes un petit peu finalement installé un peu à la périphérie, quoi, je dirais, des zones universitaires.
C'est vrai. Là maintenant, je suis un petit peu en parallèle puisque je suis professeur dit honoraire après avoir été émérite. Et je suis donc sorti un petit peu de l'enseignement direct dans mon université, qui d'ailleurs, l'université Montpellier, vous le savez, a fusionné avec Montpellier 2 pour faire l'université de Montpellier.
Et vous continuez à intervenir auprès de l'université du Tiers-Temps.
C'est exact. Et puis également dans un certain nombre d'interventions séminaires sur les thèmes qui me sont chers. C'est tout à la fois l'économie européenne, l'intégration européenne, l'économie de l'environnement et la liaison des deux, c'est-à-dire les politiques agri-environnementales en liaison avec Subagro.
Donc rien ne vous arrêtera, vous, de toute façon. Hein.
Non,
en tant qu'Européen, il n'y a rien qui ne vous arrêtera.
Absolument. Hein. C'est fondamental.
Alors, si vous voulez bien, donc, vous allez nous parler peut-être, eh bien, comme vous êtes un spécialiste du monétaire, l'union économique et monétaire. Parlez-nous-en un petit peu, s'il vous plaît.
Oui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'union économique et monétaire qui a été mise en place, donc, à la suite du traité de Maastricht, est une structure qui a un schéma totalement fédéral. Ce qu'on peut lui reprocher, d'ailleurs, dans certains cas. C'est-à-dire que, du point de vue de la théorie constitutionnelle, elle s'oppose à un système confédéral qui reste celui, assez largement, de l'union économique et de l'union politique, au fond, de l'Union européenne.
Alors, pour nos auditeurs, fédéral, confédéral, finalement, on ne voit pas tout à fait très bien la différence entre le confédéral, le fédéral. Qu'est-ce qui est fédéral, qu'est-ce qui est confédéral?
Oui, c'est une bonne question. Alors, pour faire très simple, on peut passer par les fameux trois pouvoirs d'une république, disons, ou d'un État, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Alors, au niveau du pouvoir exécutif, c'est très simple. Dans une confédération, il n'y a pas de pouvoir exécutif. Il y a des gouvernements les uns à côté des autres. Dans un système fédéral, il y a au contraire un exécutif, soit un chef de l'État élu, comme aux États-Unis, soit un chef de gouvernement, comme en Allemagne, soit un collège exécutif, comme en Suède, en Suisse. Donc, il y a un pouvoir exécutif qui prend des décisions. Dans notre système européen, de l'Union européenne, c'est un conseil des ministres, et ce conseil des ministres, lui, est développé entre les différents gouvernements, et dans un certain nombre de cas, les décisions se prennent à l'unanimité, c'est-à-dire chacun a le veto. Dans certains cas, c'est des majorités qualifiées, et là, à ce moment-là, ça devient plutôt fédéral. En ce qui concerne le pouvoir législatif, dans une confédération, il y a un conseil des ministres, il y a une assemblée des représentants des parlements nationaux, mais dans aucun cas, on ne prend de décision juridique. On prend un certain nombre de décisions qui sont ensuite acceptées à l'unanimité par les membres et qui sont ensuite traduites dans des textes nationaux. Au contraire, dans un système fédéral, il y a une chambre des représentants des États, il y a une chambre des représentants des populations et il y a un véritable pouvoir de faire des lois, un pouvoir normatif en Europe. Et là, on est avancé, il y a un Parlement, il y a un Conseil des ministres, il y a un Parlement. Et puis, il y a un pouvoir normatif, puisqu'il y a des lois européennes, des directives. Et puis, les directives sont des lois qui doivent être prises dans les États. Ça s'apparente à la Confédération. Et puis, il y a des règlements qui sont, eux, des lois européennes. Et les décisions peuvent éventuellement se prendre à la majorité, mais pas toujours. Et c'est un des problèmes qui se posent, par exemple, sur l'harmonisation fiscale. Et enfin, au niveau du pouvoir judiciaire, il n'y a pas de pouvoir judiciaire commun dans la Confédération. Il y a une structure de conciliation au niveau des États. En revanche, dans un système fédéral, il y a une Cour suprême qui peut être saisie par les États, par les institutions et par les citoyens. En d'autres termes, pour faire simple, en Confédération, on exerce une communauté, une souveraineté en commun, alors que dans une fédération, on partage la souveraineté, il y a une souveraineté qui devient souveraineté fédérale. Et c'est le cas dans l'Union monétaire, où vous avez un directoire à la tête qui est un exécutif, vous avez un parlement qui est l'assemblée des gouverneurs des banques centrales, et puis il y a un pouvoir judiciaire, puisqu'on peut s'en référer à la Cour suprême européenne. Donc c'est vraiment un pouvoir fédéral, avec dans le traité de Maastricht des contraintes très, très sévères, puisque vous vous souvenez, à l'époque, les Allemands n'ont accepté d'entrer dans une monnaie unique que si on était très très rigoureux, comme il l'était avec la Bundesbank. Et donc la Banque Centrale Européenne, en principe, dans le traité de Maastricht, n'a pas le droit d'aider les États, de racheter leurs titres, c'est-à-dire de rapporter de la liquidité. Et vous savez que, là, de ce point de vue-là, le gouverneur actuel, l'Italien Draghi, est passé outre, ce qui est une très bonne chose, et que ça a, bien entendu, sauvé l'euro en 2011, et qu'actuellement, ça nous permet d'avoir un certain nombre de pays qui sont en situation dramatique et qui, néanmoins, peuvent survivre, si j'ose dire. C'est une très bonne chose.
Mais cette idée, en fait, effectivement, de la non-intervention de la Banque européenne, c'est un vieux souvenir pour les Allemands.
Oui, tout à fait.
En fait, l'histoire, nos histoires, nous amènent à avoir des positions un peu différentes d'un pays à un autre.
Tout à fait. Leur très mauvais souvenir de l'hyperinflation de l'entre-deux-guerres a fait que les Allemands ont toujours considéré que la monnaie était une institution, on n'y touchait pas et on ne s'en servait pas pour relancer l'économie. Alors que nous, en France, on a toujours considéré que la monnaie était quelque chose d'important, mais par rapport auquel la croissance, la lutte contre le chômage, etc., étaient accessoires. Et donc, on a eu systématiquement des dévaluations ou des dépréciations du franc, et sous la 4e République, par exemple, il y avait un certain nombre de chefs de gouvernement français, M. Bourgès Monory était un spécialiste, qui était régulièrement obligé d'aller à Washington au FMI pour négocier une nouvelle dévaluation, l'autorisation de faire baisser le franc par rapport au dollar. À l'époque, on était en taux de change fixe.
Alors, on va revenir sur ces questions, effectivement, de fédération, confédération, dans une deuxième partie, par rapport à l'euro, d'ailleurs, en particulier, on va en parler. Mais vous nous proposez une première musique que vous appréciez particulièrement, je crois, c'est « Smoke in Your Eyes » par Nat King Cole.
C'est exact, merci.
They asked me how I knew my true love was true. I, of course, replied, something here inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes.
I chat them and I gaily laugh to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away and I'm without my love. Now laughing friends deride tears I cannot hide. When a lovely flame dies, smoke gets in your eyes.
Smoke gets in your eyes.
Eh bien, toujours en compagnie de Monsieur donc Jean-Marie Wasson, donc professeur titulaire de la Sœur Jean Monnet sur Montpellier, et qui nous parle un petit peu de ces questions de d'union économique et monétaire. Et on va attaquer dans une deuxième partie la question de l'euro. Alors l'euro, donc, vous nous avez dit donc, que c'est un système en fait fédéral sur l'euro.
Tout à
sur
fait,
l'euro,
le système hein, monétaire sur, est fédéral.
Bon, alors il y a des gens qui sont très attachés à l'euro, en disant, c'est bien parce qu'on a cette monnaie commune. Il y en a d'autres qui disent, il faut l'éliminer parce que elle nous gêne, elle nous empêche de vivre. En gros, hein, si je résume un peu les propos, il y a des positions entre un esprit français qui pense que on peut toujours un peu dévaluer, etc., avec un esprit allemand qui dit, il faut effectivement que ce soit quelque chose de stable. Est-ce qu'on arrive à se trouver son équilibre au niveau européen au milieu de tout ça?
Alors c'est difficile. Hein. Il faut dire les choses clairement. L'euro a été une décision politique, mais vraiment profondément politique, alors qu'elle avait des conséquences économiques évidentes. La décision politique a été prise conjointement par M. Mitterrand, le président Mitterrand, et le chancelier Kohl. En échange de l'euro, que voulait M. Mitterrand, parce qu'une monnaie comme une monnaie fixe, une monnaie unique, pardon. C'était un pas vers l'Europe fédérale évidente. Et puis, en contrepartie de cette monnaie que les Allemands ne voulaient pas, ils ne voulaient pas abandonner leur Deutsche Mark, Mitterrand a accepté que l'Allemagne se réunifie. C'était la contrepartie allemande. Et de ce point de vue-là, M. Kohl a été très, très solide, hein, puisque les Allemands, à près de 70%, ne voulaient pas abandonner le Deutsche Mark et donc ne voulaient pas entrer dans l'euro. Donc il a mis vraiment le paquet là-dessus. Bon, et la contrepartie, ça a été évidemment l'unification allemande et puis quelques petits problèmes importants qui ont pesé sur l'économie européenne en général. Bon, en revanche, du point de vue économique, on a défini ce qu'on appelle les conditions pour qu'une union monétaire soit optimale, c'est-à-dire qu'elle ramène tous les avantages sans avoir trop d'inconvénients. Et du point de vue des critères, eh bien, c'était pas très, très, très justifié d'entrer dans une union monétaire à ce moment-là. Il aurait fallu, au contraire, qu'on développe un peu plus l'intégration politique, qu'on se rapproche d'une fédération au niveau politique et au niveau économique. Par exemple, au niveau économique, une fédération aurait décidé qu'il y aurait harmonisation fiscale, qu'il y aurait intégration des conditions sociales.
Alors j'entends bien effectivement harmonisation fiscale. Alors harmonisation fiscale, la fiscalité d'un pays, c'est la résultante d'une histoire, d'une longue histoire.
Et une marque de souveraineté.
Et une marque de souveraineté. Alors est-ce que effectivement on est dans cette question de l'Europe des nations finalement, mais aussi dans cette notion de cette construction qui s'est faite par des générations qui nous ont précédés avec des façons de gérer, de considérer les territoires. Et les fiscalités, finalement, se sont développées au travers de tout cela. Donc, tout d'un coup, c'est abandonner sa fiscalité pour passer sur une fiscalité commune. Et laquelle? Alors, nous, en tant que Français, on dit, si on passe sur une fiscalité, autant que ce soit la nôtre, parce que c'est la meilleure.
Oui, et chaque pays dit la même chose.
Et chacun dit la même chose.
Mais je crois qu'il faut distinguer deux choses. La première chose, il faut distinguer la fiscalité sur les revenus personnels et la fiscalité et les autres fiscalités, en particulier la fiscalité sur les entreprises. La fiscalité sur les revenus, c'est une question très politique. La fiscalité sur les entreprises, c'est au contraire une des dimensions de la compétitivité et donc une des dimensions de la concurrence loyale. Donc l'harmonisation fiscale sur les sociétés, ça devrait être permis au niveau fédéral, si j'ose dire, au niveau total. Le deuxième problème, c'est que la fiscalité, ça rapporte des moyens au niveau souverain. Et donc, de ce point de vue-là, si on était réellement dans une fédération, on aurait une fiscalité européenne, ou en tout cas une participation européenne au budget européen, une participation nationale au budget européen des différents pays qui serait bien plus forte. Quand on compare les États-Unis et l'Europe, par exemple, en Europe, le budget européen, c'est moins de 1% de l'ensemble de la richesse, qu'on appelle le PIB, et aux États-Unis, c'est pratiquement 20%. Et donc, aux États-Unis, on arrive avec le budget européen, le budget fédéral à redistribuer et amortir les chocs asymétriques, comme on dit, hein, d'un pays ou d'un autre. Quand tel ou tel État a des problèmes spécifiques parce qu'il y a une crise du pétrole ou il y a une crise de l'automobile, eh bien, le fédéral intervient. Ce n'est pas le cas chez nous.
Ce n'est pas le cas chez nous. Alors, chez nous, il n'intervient pas. Et en plus, je dirais, le budget européen, tout le monde dit aujourd'hui, enfin, ce qu'on entend quand même, en disant, et ce bruit qui est répandu de, il y a des pays qui versent plus et il y en a qui reçoivent plus. Et alors, nous, on verse plus qu'on en reçoit. Et cette question, que pour ma part, je trouve un petit peu absurde, parce que est-ce qu'on se pose la question de savoir si la Lozère participe plus au budget français que la région parisienne ou que la région Languedoc-Roussillon ou que... Voilà, on ne se pose pas cette question en France. Et tout d'un coup, au niveau européen, on se la pose. Comment on peut créer, alors, effectivement, comment on peut régler... Comment on peut arriver à naviguer dans ce...
Oui, alors attendez, au niveau européen, et avant bien longtemps, si on n'y arrive jamais, on ne sera pas au niveau de l'intégration française, par exemple. Hein. Donc, si vous voulez, il paraît assez justifié, lorsqu'on parle la même langue, lorsqu'on a la même histoire, etc., de faire des transferts aussi importants. Il reste qu'on devra s'orienter vers ça si on veut que l'Europe réellement marque le coup. Il reste aussi que ces contributions directes et nettes de tel pays pour le reste, c'est une façon également de converger vers une Europe plus homogène du point de vue de l'économie et de développer... Bon, nous en France, on met de l'ordre de 6 milliards nets hein, sur l'Europe. On en reçoit beaucoup, mais on paye beaucoup. Moins que les Allemands, mais on peut. Mais ces 6 milliards, on les récupère aussi en partie parce que ces 6 milliards sont distribués, je sais pas, en Pologne, en Tchécoslovaquie ou ailleurs, et il y a un certain nombre de commandes qui reviennent. De la même façon, c'est les Allemands les plus généreux. Le rapport net, c'est 11 milliards, hein, ou peut-être même un peu plus. 11 milliards, c'était il y a 2-3 ans. Mais ces 11 milliards, c'est rien du tout à côté de leur exportation sur le reste de l'Europe et les gains qu'ils font sur leur exportation sur le reste de l'Europe grâce au marché unique.
Et puis, compensé. Et puis, qu'est-ce que ça a comme sens, par exemple, quand un centre de recherche, qu'il soit en France, qu'il soit en Allemagne, en Italie, etc., touche effectivement à un moment des aides européennes, dès lors que ces sommes-là sont réinvesties dans des colloques internationaux où on va faire venir, où on va même aller dans d'autres pays, on va payer des voyages. Donc finalement, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un pays touche plus que l'autre? Et puis, vous revenez aussi sur cette notion de langue. Mais la notion de langue, c'est quand même quelque chose de récent en France. On a uniformisé la langue française pendant la guerre de 14. Avant la guerre de 14, on parlait les Bretons et parlaient plus breton que français. Les troupes qui étaient engagées pendant la guerre de 14, on les réunissait par communauté parce qu'ils arrivaient à parler entre eux.
Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. D'ailleurs, en plus, on peut dire que désormais, par exemple, la langue américaine, au travers de la musique, des films, etc., est très développée. Il reste quand même que c'est un des facteurs très importants pour se faire comprendre. Et si vous voulez, quand vous voulez parler politiquement à l'Europe entière, ben, il faut être capable de parler deux ou trois langues. Je me souviens de Pepe González, le premier ministre espagnol de l'époque. Il était très connu et bien vu en France parce que c'était une personne qui pouvait parler français d'une façon courante et c'était très agréable et on lui a donné l'occasion de s'adresser aux Français. Là, si on avait tel ou tel chef tel ou tel homme politique étranger qui parle bien français, c'est un peu le cas de M. Schulz par exemple, eh bien, automatiquement il est vu. Les langues, ça joue un rôle très important, hein, je pense. C'est un des éléments considérables quand on compare aux États-Unis. Les États-Unis vont probablement commencer à connaître quelques petits problèmes avec le développement de l'espagnol chez eux. Mais au fond, ils deviendront petit à petit bilingues. Et quand même, tout le monde comprend l'anglais, même si dans un certain nombre de supermarchés à Los Angeles, tout est en espagnol. Quand vous parlez anglais, quand même, les gens comprennent.
Comprennent. Bon, écoutez, on va revenir donc sur cette question et de cet avenir de l'Europe au travers de la langue et puis aussi de l'euro en particulier dans une troisième partie. Mais vous nous proposez une deuxième musique qui s'appelle Washington Square. Eh bien, toujours sur Radio FM Plus 91 MHz à Montpellier 103.1 à Nîmes, en compagnie de Monsieur Jean-Marie Boisson. Monsieur Jean-Marie Boisson, vous avez quelques mots à nous dire encore sur l'euro. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, hein, parce que parler de l'euro en 5 minutes, alors que vous pourriez tenir, vous, plusieurs heures là-dessus.
Bon, c'est simplement, je voulais souligner le fait que l'union monétaire, donc, souffre du fait qu'on n'est pas derrière cette union monétaire un peu plus d'intégration politique et économique. Politique, d'ailleurs, essentiellement. Ce que je voulais vous dire, c'est que du fait de l'analyse économique, à la limite, il n'aurait pas fallu entrer dans l'euro. Mais du fait qu'on est rentré dans l'euro, désormais, les conditions ne sont plus du tout les mêmes. Si vous voulez prendre une image, le vin est tiré. Et maintenant, il faut le boire et il faut essayer de faire en sorte qu'il soit le meilleur possible. Alors pour ça, il y a un avenir à déterminer sur l'Europe et son évolution. Essentiellement, je crois, dans le domaine politique, parce que c'est le domaine politique qui ensuite résoudra les problèmes économiques et ensuite assurera l'ajustement monétaire.
Et alors, puis, au plus, il y a un élément quand même qui est important, c'est que les gens voyagent de plus en plus aujourd'hui. Les gens ont des familles qui sont pas forcément franco-françaises. Et donc, quand on va voir ses petits-enfants, ses cousins, etc., qui sont en Italie, qui sont en Allemagne, quand on a cette même monnaie, ça aide quand même.
Et puis, j'ajouterais alors, en tant qu'enseignant, j'ai été en charge des programmes Erasmus à Montpellier 1. C'est incroyable ce que ça change les perspectives. C'est incroyable ce que nos étudiants ouvrent leurs perspectives, sans parler, hein, c'est assez anecdotique, mais sans parler de mariage. Hein. J'ai plusieurs étudiants, par exemple, sont allés à Valladolid et qui sont revenus mariés à des aviateurs espagnols. C'est très important dans l'intégration européenne. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que désormais, on est dans l'euro et en sortir, on peut considérer que c'est un piège, mais en sortir, ça sera très très difficile et ça pourrait être très dommageable. Ce qui fait que, au lieu d'envisager de sortir de l'euro et d'avoir un choc inflationniste et sur les taux d'intérêt énorme, énorme, tous les économistes sont d'accord là-dessus, il faudrait pallier les difficultés qu'a créé cette monnaie unique dans nos situations économiques respectives. C'est-à-dire qu'il faudrait faire en sorte qu'on ait, au niveau de l'Europe, la possibilité de prendre des décisions qui ne soient pas strictement des décisions allemandes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à convaincre les États du Nord en général, l'Allemagne en particulier, que on ne peut pas avoir une situation d'excédent extérieure aussi importante que celle qu'ils ont, et au détriment d'un certain nombre de leurs travailleurs eux-mêmes, puisqu'ils ont joué à la modération salariale. On ne peut pas continuer à avoir cette situation-là sans arrêt, sans perspective. Donc il faut arriver à convaincre nos partenaires qu'il faut changer de politique au niveau européen. Et pour ça, il faut donc un pouvoir politique plus fort, et peut-être même mettre en place des institutions supplémentaires, peut-être en s'en tenant à l'euro, mais dans le cadre de l'euro, créer un pouvoir politique, c'est-à-dire une représentation démocratique, un parlement, et éventuellement un petit gouvernement ou un ministre qui a un pouvoir et une légitimité pour pouvoir imposer un certain nombre de décisions au niveau des États de l'euro.
Mais, de la zone euro. Alors, est-ce que cette notion, en fait, de sortir de l'euro, est-ce que c'est plus du sentiment au niveau des gens, cette espèce de je perds les fondements de ce qu'est ma nation? Et donc, est-ce que c'est pas un peu ça sur les piliers de ce que les gens s'imaginent qu'ils vont perdre en quittant l'euro?
Je ne comprends pas bien la question, mais ce qu'on peut répondre, c'est la chose suivante. Non, il y a de bonnes raisons de se plaindre de l'impact de l'euro, essentiellement parce qu'on a des différences de potentiel à l'exportation en particulier, fondamentalement, qui sont très différentes. Hein. Ce qu'on peut appeler la situation économique, l'équilibre économique des différents pays par rapport à leur monnaie est variable selon les États. Essentiellement d'ailleurs en liaison avec la force du dollar. Lorsque le dollar est fort, toutes les économies européennes se rassemblent, leur conjoncture se rassemble. Lorsque le dollar est faible, au contraire, ça explose. Or, on a connu toute une période de dollar très fort, ce qui fait que ça a créé des divergences fortes entre les pays européens. Maintenant que le dollar s'abaisse un peu, et si on pratique une politique monétaire au niveau de la Banque Centrale Européenne, ce qu'a fait M. Draghi, qui permette de faire baisser la valeur de l'euro par rapport au dollar, par rapport au yen, alors à ce moment-là, on a de grandes chances d'avoir une meilleure conjoncture commune entre les pays. Bon, par ailleurs, évidemment, il faut aussi qu'on ait une entente sur les conditions dans lesquelles on travaille dans chacun des pays. On ne peut pas admettre que on est, par exemple, une entreprise de transport qui se met à mettre que des travailleurs polonais comme conducteurs, qui sont, eux, très contents, mais qui prennent la place des travailleurs, mettons, belges ou français. C'est pas que j'en veuille aux Polonais, au contraire, même à la limite, ça crée aussi une dynamique au niveau de la Pologne, mais il faut quand même qu'on respecte un certain nombre de conditions de concurrence loyale.
Oui, mais alors dans le cadre, par exemple, de notre région, quand il y a eu l'élargissement vers l'Espagne et le Portugal, l'ensemble de la vitiviniculture s'insurgeait en disant « il va y avoir une concurrence déloyale, ils vont nous prendre, etc. etc. » Et finalement, ça a permis, l'Espagne est remontée à un niveau qui nous est équivalent aujourd'hui. Donc ça a plus poussé finalement les pays vers le haut que vers le bas.
Oui, mais il faut accompagner.
On l'a accompagné avec des
mesures spécifiques, hein, ce qu'on a appelé les PMI, donc
il faut renforcer l'Europe.
Programme méditerranéen. Oui, bien sûr. Il faut renforcer l'Europe dans un esprit de coopération. Il faudrait probablement qu'on ait un système de... Ce que les libéraux n'aiment pas trop, mais un système de planification indicative. Retourner aux idées de Jean Monnet. Hein. Jean Monnet, c'est le père de la planification française. Cette planification indicative, ça ne veut pas dire qu'on va tomber dans le ghost plan. Ça veut dire simplement qu'on a un certain nombre de visions à long terme et qu'on tient compte d'un certain nombre de problèmes spécifiques de chacun des pays pour pouvoir les ajuster ensemble. Et peut-être que c'est ce vers quoi on va se tourner si on vote correctement ce dimanche prochain. Mais malheureusement, on n'en est pas sûr.
Eh bien, écoutez, sur ces paroles, Monsieur Jean-Marie Boisson, donc merci d'avoir passé ces instants avec nous sur Radio FM+, et en souhaitant à tous nos auditeurs une bonne journée et puis un bon vote pour dimanche.
Merci.